regarde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
Qui dit été dit balcon. Qui dit balcon dit bière. Mais qui dit balcon dit aussi ce fameux monologue de Roméo et Juliette. Venez déclarer votre amour à la bière avec nous lors de l'émission Les monologues du balcon. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Pour la Ligue. Et aujourd'hui, nous vous présentons un bilan qui a été enregistré sur Zoom avec les exécutants et exécutantes sortantes du mandat 2019-2020 pour la Ligue. Donc, on va vous faire un bilan avec mes six interlocuteurs. Donc, commencer, on a Nicolas Pouliot, président de la Ligue.
Bonjour tout le monde.
Ensuite, on a Aurèle Fanny de Chan-Engelier, qui est notre vice-présidente aux études et à la recherche.
Bonjour tout le monde.
On a Lydia Arsenault, qui est notre vice-présidente aux droits étudiants, qui est une habituée de l'émission. Même Fanny aussi, d'ailleurs, on a des habitués de l'émission.
Salutations, communauté étudiante de cycle supérieur à l'Université Laval.
Et on a Jason Altman, qui est notre vice-président aux affaires externes.
Je serai bref. Salut.
Et Charlotte Barry, qui est notre vice-présidente aux affaires internes à la Ligue.
Coucou tout le monde!
Donc, notre secrétaire général, Michel Lessing, ne peut pas être présent. Et notre vice-président aux affaires financières ne peut pas être présent, Nathaniel Morin. Mais on a ses points. Je voulais nous mentionner quand on sera rendu à ces points-là. Donc, comment s'est passée votre rentrée en mandat? On va commencer par ça. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient parler de leur expérience d'entrée en mandat au mois de mai qu'est-ce que vous avez fait dans ces mois-là?
Oui, bien, une entrée en mandat, c'est toujours un peu particulier, hein, quand on débute un nouveau travail, parce que même si c'est de l'implication étudiante, l'Allier, ça reste qu'on travaille pendant qu'on est à l'Allier. Donc, il y a toujours une adaptation, puis il y a la passation, en fait, des dossiers. Mais je dirais que les deux premiers mois, ben, on est en adaptation, on prend connaissance de comment ça fonctionne une association étudiante, si, comme moi, on ne s'était pas vraiment impliqué à ce niveau-là dans notre parcours universitaire. Tout ça est bien stimulant.
Excellent. De mai à, je dirais, à août, le travail qui a été fait en amont, c'est du budget. Si vous avez travaillé sur le plan d'action et sur le budget, c'est bien ça?
C'est ça. C'est un travail de fond, en fait, durant l'été. Là. C'est toujours ça aussi qui est un peu particulier. C'est qu'on, comme le disait Lydia, on entre en fonction, il y a une transition qui est faite. Puis tout de suite, l'exécutif s'attelle à travailler sur une ébauche du plan d'action en fonction des commentaires qu'on reçoit des membres au cours de la dernière année, aussi en fonction des commentaires qui sont émis par les membres lors du forum où se discuter le prochain plan d'action. Donc, en regard à tout ça, puis en regard au projet des différents exécutants, on rédige un plan d'action au cours du mois de mai, début juin, qu'on présente ensuite au conseil d'administration du mois de juin, qui est adopté et ultimement représenté aux membres lors d'une assemblée générale, annuelle en octobre. Puis, c'est ça, tout au long des après ça, on essaye de faire un travail de recherche, de construction d'argumentaire sur certains dossiers, de préparer aussi certains projets qu'on met en place à l'automne, parce que le plus gros moment d'un mandat, c'est toujours la rentrée d'automne. C'est là où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Donc, c'est un peu particulier parce que, bon, il y a aussi moins d'étudiants qui sont sur le campus durant l'été, fait qu'on est plus à la maison Marie-Serrois à travailler dans nos bureaux tous ensemble, puis à prendre aussi notre deux semaines de vacances bien méritées au mois de juillet.
Ouais. Puis Puis aussi, pendant cette période-là, si jamais il y a des gens qui sont des commanditaires, préparés à ce beau projet qu'est l'agenda, pendant l'été, avec la graphiste, l'attaché aux communications travaille sur l'agenda. C'est un de nos mandats cette année de faire un agenda pour les cycles supérieurs. Il y a toujours un agenda qui est fait pour ces gens-là au cycle sup. Donc, on fait ça, on travaille sur ça pendant l'été. Et là, on est rendu au mois d'août. Le mois d'août, c'est la préparation aussi de la rentrée, parce que la rentrée a toujours lieu vers la fin août, début septembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour la rentrée au niveau des activités de la LIE?
Pour la rentrée, juste avant de commencer là, en septembre, on a eu le lancement de la terrasse au foyer. C'était une première. Donc, cette année, nouveauté, il y a eu une terrasse qui est arrivée au cours de l'été, au foyer. Et pour célébrer, on a fait un super gros party. Il y avait un band qui était là. C'était vraiment trippant. Donc, ça a vraiment commencé la rentrée du bon pied. Ensuite, la semaine d'après, on avait les activités, dont le kiosque de la rentrée qui a eu lieu. Et on avait aussi un barbecue de la rentrée où est-ce qu'on a fait des chili dogs. Fait qu'on a servi à peu près là, 600 chili dogs. Fait qu'on est vraiment contents. Fait que c'est ça.
C'est ça. C'est certain que la rentrée, c'est le moment de l'année où ce que on redonne les agendas, mais aussi on rencontre les membres qui parfois sont à leur première session à la maîtrise ou au doctorat. On ne veut pas, c'est sûr, certains qui ont des questions et que les premières semaines de l'année, c'est toujours les plus actives à la maison Marie-Sirois. C'était pas mal le tour du mois d'août.
Mais il ne faudrait pas oublier également que c'est la période pendant laquelle les contrats ici en rédigeait se négocient pour l'année. Il y a 12 contrats ici en rédigeait, 12 activités de retrait de rédaction de ici en rédigeait. Avec des conférences pré-rédaction. C'est vraiment le moment où ça se négocie. Puis c'est le moment également où toutes les activités d'études et recherches, notamment les journées des métiers de la recherche, se planifient. Ça a été commencé cette année par mon prédécesseur.
Oui, puis ensuite, au mois de septembre, on a eu un gros dossier qui, après plusieurs années, on dirait presque 10 ans, est finalement mis en place. Et c'est le laissez-passer universitaire qui donne accès au transport en commun pour tous les étudiants de l'Université Laval au cycle supérieur ou premier cycle. Puis ça, c'est une initiative qui est conjointe par la CADEL, la LIE, bien entendu, l'Université Laval, les réseaux de transport de Lévis et de Québec. Puis la mise en place a commencé en septembre.
Exact. On était contents, puis ça a été un beau succès aussi. On l'a pu voir dans les données qu'on a pu avoir entre les mains à l'hiver. Le taux d'utilisation du LPU a été énorme. RTSC a enregistré plus de 1,6 million de montées avec le LPU. 86% des étudiants admissibles au LPU, parce qu'on parle ici là, des étudiants temps plein, évidemment, majoritairement, en tout cas. 86% d'entre eux se l'ont procuré, puis 94% l'ont utilisé au moins une fois. Fait que c'est sûr qu'on est vraiment content de ce projet-là. Puis comme tu dis, Marie-Ève, il y a eu le référendum lors du précédent mandat qui nous avait comme donné le OK pour signer l'entente FIO avec l'université. Puis là, de mettre ça en application, de voir que les étudiants l'utilisent autant, bien, on peut vraiment être fiers de notre impact aussi sur le transport en commun dans la ville de Québec. C'est vraiment un beau projet porté par les étudiants qui ont un impact direct là, sur la vie citoyenne de Québec.
Et aussi, ce qui est et de Lévis, exactement. Puis aussi, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce projet-là, c'est que ça a un impact aussi sur le développement durable et sur la mobilité étudiante. Il y a eu une baisse au niveau des stationnements de l'Université Laval à cause justement de la mise en place du LPU. Puis ça, c'est quand même excellent à savoir pour la mobilité étudiante. Puis, il y a un autre gros dossier qui a été piloté par les associations des parents étudiants, entre autres de l'Université Laval. C'est la politique parents étudiants qui a commencé à partir de septembre. Ça, c'est un autre gros morceau au niveau des droits étudiants.
Oui, tout à fait. Bien, comme tu l'as dit, Marie-Ève, l'APITUL, qui est l'association qui défend plus particulièrement les droits là, des étudiants parents, et on devrait même dire des parents étudiants, ils ont travaillé pendant plusieurs années là pour que l'Université Laval mette sur pied une politique qui leur permet en fait de faire reconnaître leur statut plus particulièrement et d'avoir une certaine flexibilité par rapport à des situations qui n'étaient pas encore reconnues dans le règlement des études. Donc c'est une première en fait au Québec qu'une université ait une politique comme ça. Je pense même que c'est une première dans les universités canadiennes au complet. projet. Donc, on peut être fiers d'avoir collaboré sur ce dossier-là avec la Pétule. Qu'est-ce que ça apporte, cette politique-là? Bien, comme je le disais, c'est des accommodements. Avant, bien, il pouvait arriver qu'une étudiante, par exemple, qui était enceinte, puisse pas avoir autant de flexibilité dans la remise de ses travaux de recherche, qu'elle puisse pas bénéficier au moment de l'accouchement de report d'examen. Ce qui est quand même assez absurde de nos jours. Donc, c'est important qu'on ait quelque chose pour baliser ces pratiques-là, puis la reconnaissance que parfois, il arrive des événements dans la vie où faut se concentrer sur notre marmaille et non pas sur nos études, mais c'est pas impossible de faire les deux en même temps.
Exactement. Puis, ça répondait aussi à des besoins qui étaient présentés par cette communauté-là. Ça répondait aussi à des droits qu'il y avait besoin d'avoir. Gros dossier, c'était le climat. Le 27 septembre dernier, il y a eu une grosse manifestation pour le climat. Donc ça, c'est plus du côté de notre vice-président aux affaires externes que ça revient. Comment ça s'est passé, la manifestation au mois de septembre pour le climat?
C'était absolument extraordinaire. C'était d'une ampleur qui était vraiment inhabituel pour la ville de Québec. C'était vraiment très encourageant. À la base, c'était La Planète s'invite à l'Université Laval qui appelait au cours de l'été à faire carrément des grèves pour cette journée-là. Puis même si à l'Allier, on a manifestement les positions politiques pour dire on embarque dans un mouvement comme ça, on a quand même un processus un peu complexe qui est en place depuis 3 ans pour les modalités de consultation si on veut déclencher une grève. Et puis c'était quelque chose qui aurait été difficile à faire, mettons. L'espace de temps était vraiment court. C'était au mois de septembre, c'est le premier mois de la session, donc de rejoindre les membres, que toutes les instances et consultations puissent avoir lieu à temps. C'est à peu près impossible, donc on a plutôt repassé ça aux associations, mais on s'était dit, on va quand même participer à cette manifestation-là. J'étais entouré de quelques-uns de mes collègues et d'autres membres. On était plus, je me souviens plus c'était quoi le nombre exact, mais je crois on était quand même plusieurs dizaines de milliers défiler dans les rues de Québec, des gens de tous âges.
Il me semble 85 000, mais je suis pas certaine. Il me semble. Ouais. On était un gros groupe, j'y avais même participé, même si je n'étais pas en poste pour l'Allier pour l'instant. Puis au niveau du mois de septembre, durant le mois de septembre, il y a aussi un gros bout de chemin qui a été fait au niveau du forum des associations et des élections annuelles du comité exécutif. Le travail a été débuté en septembre pour ce qui est des instances de l'Allier. Le forum, qu'est-ce que c'est présentement?
Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, vous n'êtes pas sans savoir là, que le forum a changé de mouture. Donc, avant, c'était un forum des associations. Donc, les divers là, représentants sur les associations étaient invités à venir s'exprimer, donner leur avis. Puis là, cette année, on voulait vraiment donner plus de pouvoir aux membres. Donc maintenant, c'est un forum où est-ce qu'on fait des groupes de discussion avec les membres qui sont présents. Ils n'ont pas besoin d'être représentants sur une association. C'est vraiment, si le sujet t'intéresse, tu viens discuter du sujet. Puis après, on fait des retours en grand groupe. Là. Fait que c'est vraiment un peu comme des mini-AG, mais vraiment collaborative. Donc, la formule est pas mal plus interactive, puis on est sûr là, à ce moment-là d'avoir le pouls réel des membres.
En octobre, un autre gros dossier qui est la modification au programme d'expérience du Québec. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'Allier a participé aux manifestations à l'Assemblée nationale pour ce qui est du PEC. Si vous voulez expliquer un peu qu'est-ce que c'était, puis pourquoi on manifestait pour ça, donner la parole à Nicolas et Fanny qui ont participé aux manifestations.
Je pensais laisser la parole à Nicolas pour ça, là, mais c'est vraiment les manifestations, une manifestation étudiante que l'Allier a appuyée cette année concernant les réformes du programme d'expérience québécoise. Commencer les étudiants l'Université de Laval axe beaucoup sur le recrutement extérieur. Puis les universités, les étudiants internationaux qui arrivent ici, arrivaient avec le contrat qu'à la fin de leurs études, ils seraient admissibles pour avoir la résidence permanente. Donc, pour des causes, des raisons économiques purement, le gouvernement a décidé de modifier ce contrat-là et d'orienter les étudiants vers certains métiers pour pouvoir obtenir la résidence permanente et de couper certaines autres formations qu'ils ont considérées comme inutiles. Et donc, justement, le but de la liste était de revendiquer pour que tous nos étudiants puissent avoir le respect du programme d'expérience québécoise tel qu'il avait été mis en œuvre au départ, non pour la réforme, et revenir aux conditions du PEC antérieur afin que tous les étudiants puissent, peu importe leur formation, puissent accéder au programme d'expérience québécoise. Mais c'était aussi, Marie, tu as oublié de le mentionner, mais je fais la transition, mais c'était aussi le moment où, pour faire la transition, je ne sais pas si Nicolas a quelque chose à dire, mais je voudrais revenir après sur l'encadrement.
Oui, bien, c'est sûr, comme disait Fanny, c'est un dossier vraiment important qui a comme marqué un peu la transition vers le mois de novembre. C'est parmi une des luttes étudiantes qui a été le plus rapide aussi. On a vu le gouvernement se rétracter rapidement en moins d'une semaine et demie. On a vu le gouvernement revenir sur sa décision. Puis, il y avait comme, c'était une double problématique, si on veut. Ça affectait autant l'intégration des étudiants internationaux ici au Québec. Il y avait aussi derrière cette mesure-là une forme de marchandisation d'éducation où certains programmes sont priorisés aux dépens de d'autres en vertu de, ben, de ce que le gouvernement clarifierait sans doute, mettons, de valeur économique. Fait que, tu sais, il y avait comme un enjeu aussi à l'éducation qu'on souhaite, à l'éducation supérieure qu'on souhaite. Puis, ça a été un beau moment de mobilisation étudiante. Rapidement, on a vu des groupes se former chez les étudiants internationaux pour se mobiliser. Ça a pris forme vraiment de la base. Puis, je pense que ça a pris le gouvernement un peu de cours. Fait que, moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, ça a marqué en force le début de novembre.
Juste avant qu'on tombe en mois d'octobre, de mois de novembre, il y a aussi eu la politique des violences à caractère sexuel qui était aussi dans le mois d'octobre. On veut en parler un petit peu.
Oui, ben au mois d'octobre, vous avez probablement vu atterrir dans votre portail étudiant la formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel. Donc, 2019-2020, c'était la première année d'application de la loi qui obligeait les universités québécoises à se doter d'une instance particulière pour traiter les violences à caractère sexuel et de mettre en place, dans le fond, une formation obligatoire pour les étudiants, mais aussi pour l'ensemble de la communauté universitaire. Donc, ça a quand même porté ses fruits. Lors du lancement, là, bon, à la mi-octobre, on avait déjà 4500 étudiants qui avaient complété leur formation. Puis, rendu à la fin du mois de février, ben, c'était presque 22 000 étudiants. Donc, on peut dire que la moitié de la communauté étudiante ont complété la formation obligatoire. Même s'il n'y avait pas de sanctions qui étaient appliquées, ben, on peut dire qu'on a une très bonne réponse à ce sujet-là à l'Université Laval. Puis, on peut se féliciter de voir qu'il y a un intérêt, dans le fond, pour faire de la prévention à ce sujet-là, puis améliorer la vie de campus.
Puis, aussi au mois d'octobre, il y avait un pop quiz électoral et un karaoké, le premier de la session. Puis, il y a aussi eu le débat sur l'environnement qui a eu lieu. Il y a eu plusieurs choses en octobre, en fait. Il y a eu la conférence pour en savoir plus. Le prix complicité pour le RTC. S'il y a quelqu'un qui veut parler de ce dossier-là, allez-y.
Mais parmi toutes les activités qu'on a eues pendant le mois d'octobre, c'était surtout la campagne électorale fédérale et puis les élections fédérales là, qui battaient leur plein. Oui. Fait qu'on a organisé avec la Planète s'invite à l'université puis avec la CADEL conjointement deux débats, un débat sur l'enseignement supérieur où on avait des représentants des partis qui étaient invités et de concert avec une centaine d'autres endroits à travers le Canada, un débat sur l'environnement avec presque tous nos candidates là, de grands partis pour la circonscription de Jean Talon où est située l'université. Donc, ça a été très populaire, ça a été très bien achalandé dans les deux cas et ça a été vraiment très intéressant. Mais on avait aussi des belles activités socio-culturelles pour agrémenter ça.
Oui, en lien avec l'environnement, justement, il y a eu la conférence pour en savoir plus par la chaire publique et l'Université Laval. C'était un premier grand rendez-vous qu'on a donné la chance aux gens d'en savoir un peu plus sur les changements climatiques.
Oui, en effet, il y a eu environ 400 personnes en présentiel, puis il y était à peu près une centaine sur le live, fait qu'on est très satisfaits pour une première expérience. Les quatre panélistes étaient vraiment formidables. Ils ont donné à peu près là, 2h30 de conférence, donc c'est vraiment impressionnant. Et aussi, avant la conférence, pour en savoir plus, on avait la pré-conférence qui était une sorte de discussion au foyer où est-ce qu'on a eu à peu près une quinzaine de personnes pour juste se réchauffer un peu l'esprit, se mettre dans le bain, vers quoi on s'en va, réfléchir un peu. Donc, non, c'était vraiment super intéressant. Également, au niveau des activités socio-culturelles, on en a parlé brièvement, mais le karaoké, en fait, c'était le premier karaoké de l'histoire de l'Allier. Donc, on est pas mal contents. Pour l'occasion, là, il y avait un drink, le Farfadet, qui a été créé. C'était formidable. On a eu à peu près 80 personnes, là, donc c'était vraiment une belle façon de briser l'isolement. Également, le pop quiz électoral, ça aussi, c'était vraiment le fun. Dans le fond, c'était « Est-ce que tu connais tes élections au niveau de la politique québécoise et canadienne? » Donc, c'était vraiment des belles activités tripantes là, pour tenter d'étayer notre mi-session.
Puis, il y a aussi eu un événement pour l'Allier. On a gagné un prix complicité avec le RTC pour le mois d'octobre. Nicolette était à la remise du prix. Pourquoi on a gagné le prix complicité?
Ben en fait, on a gagné le prix complicité. Là, c'est un prix qui est décerné aux initiatives en matière de transport. Donc oui, on a gagné le prix complicité. On est très heureux de l'avoir gagné. C'est sûr, comme je disais, c'est le FPU, c'est un beau projet étudiant qui est né par les étudiants. Depuis plusieurs années, on en faisait la demande. Et puis finalement, ça a pu se concrétiser l'automne dernier après le résultat du référendum de 2018. Fait que oui, on a reçu ce prix-là, puis on est très heureux pour la communauté étudiante.
Le prix complicité, ça souligne la contribution exceptionnelle d'organisations qui font la promotion du transport en commun auprès de leurs membres de la grande région de Québec.
Voilà. Au mois de novembre, on retourne à notre mois de novembre. Campagne du plan d'encadrement. C'est un gros dossier à l'Allier. C'est important d'avoir une bonne relation d'encadrement avec sa direction de recherche et c'est les gens avec qui on fait notre mémoire ou notre thèse. Et ça, c'est un dossier qui était plus du côté d'études et recherche.
Oui, merci Marie. En fait, cette année, nous avons lancé la campagne pour le plan d'encadrement. C'était vraiment suite au constat qui a été fait par plusieurs instances, dont l'Ombudsman. Et donc, on est arrivé à la conclusion que l'encadrement occupe une importance primordiale dans la réussite au cycle supérieur. Et on a lancé une campagne plan d'encadrement qui visait à revendiquer que l'Université Laval rende obligatoire la ratification et la signature d'une entente d'encadrement entre tous les étudiants au cycle supérieur et leur direction de recherche. Donc, on a quand même eu une belle progression là-dessus avec toute l'équipe, là, au point d'arriver à un plan de collaboration qui remplit quand même à la fois les critères de la charge de travail entre l'étudiant et l'enseignant sur les financements, que ce soit bien défini, et la répartition du programme de travail. Mais donc, ça a bien évolué, sauf qu'aujourd'hui, l'Allier demande justement qu'on ait un plan de collaboration sans clause. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas... Le plan de collaboration tel qu'il est adopté en ce moment donne la possibilité aux deux parties de signer ou pas l'entente de collaboration. Puis, même si on a bien avancé par rapport à la mouture du plan de collaboration, on revendique quand même un plan de collaboration, un plan d'encadrement sans clause dérogatoire. Puis, ça a été aussi une belle année sur ce point-là parce qu'il y a eu la mise sur pied du comité d'encadrement dans lequel l'Allier siège de manière très assidue. Et la politique d'encadrement sur laquelle l'Allier contribue à travailler de manière très serrée cette année et le rôle du comité d'encadrement qui est en train d'être rapidement défini. Parmi l'une de nos recommandations qu'on veut pousser également cette année, c'est la mise sur pied d'une instance indépendante qui puisse gérer le tout. Donc, l'Allier, on travaille très fort. C'est quelque chose qu'on poursuit l'année prochaine également, mais... Je laisserai Nicolas dire également un mot là-dessus.
Ben en fait, peut-être je mettrais juste aussi en contexte cette campagne-là dans le cadre des dévoilements des résultats de l'enquête en santé psychologique de l'UVEC qui ont eu lieu en novembre. Donc, ça a été un gros moment attendu. On rappelle que l'enquête avait eu lieu en 2018, durant le même automne, pendant pas mal la même période de temps qu'il y avait lieu le référendum sur l'FPU. Donc, on avait fait une enquête, l'UVEC avait fait une enquête au national à laquelle on avait participé. Puis, on a enfin eu les résultats de cette enquête-là qui est alarmante, qui indique que les étudiants en matière de santé mentale pourraient aller mieux. Et puis, autrement dit, dans l'enquête, on y présente différents facteurs en santé psychologique auxquels ils sont associés des leviers d'intervention. Et on peut voir que le plan d'encadrement ou l'encadrement de façon générale pour les étudiants est un de ces leviers-là qui affecte directement, en tout cas, qui est associé à différents symptômes, si on veut, en santé psychologique. Donc, l'encadrement est définitivement un levier sur lequel il faut travailler, puis c'est ce qu'on a fait avec la campagne sur le plan d'encadrement, puis comme le disait Fanny, qu'on continue de faire depuis là.
Puis aussi, un autre gros dossier, au mois de novembre, on a donné ce qu'on appelle une formation des représentants pour les comités de programme, donc pour ceux et celles qui veulent s'impliquer au cycle supérieur, il y a des comités de programme qui existent, puis pour ces représentants-là, on a fait une formation, c'était la première fois qu'on donnait cette formation-là au mois de novembre, puis ça a permis à des gens de mieux comprendre comment fonctionnent les comités de programme. Puis c'est une formation qui était donnée par tout le monde.
Oui, elle était donnée, bon, juste petit correctif, Marie-Ève, la formation a été donnée par la FESP, le vice-rectorat à la création et à la recherche également. Puis on a formé cette année, je pense, une trentaine d'étudiants. Une trentaine d'étudiants à connaître bien le fonctionnement, la structure des comités de programme et leur fonctionnement et le rôle des étudiants à l'intérieur des comités de programme. C'est très important de bien comprendre ces rôles-là pour pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Puis ça a été un beau succès, puis on va continuer sur cette même lancée.
Oui, effectivement. Toujours au mois de novembre. Le mois de novembre, comme vous pouvez le constater, est un mois assez chargé pour l'Allier. Il y a eu le lancement de la nouvelle mouture de Cogito qui est devenue NEO. Donc, on a sorti une première capsule avec la participation de Julie Garneau.
Oui, donc c'est ça. Avant Cogito, là, c'était un format plus pour la télévision. Donc, c'était comme des émissions d'une trentaine de minutes. Tandis que maintenant, NEO, c'est quoi? C'est une petite capsule vraiment plus adaptée pour le web. Donc, une petite capsule où est-ce que l'étudiante va être appelé à vulgariser son projet de recherche pour vraiment là, monsieur, madame, tout le monde et pas juste pour la communauté universitaire. Le but là-dedans, c'est vraiment de démocratiser les savoirs, de les rendre accessibles parce que des fois, en tant qu'universitaire, on a tendance à dire des mots que personne ne comprend vraiment. On est vraiment bon là-dedans. Puis là, c'est ça, c'est vraiment pas accessible au grand public. Donc, NEO, c'est comme pour briser ce pattern-là. Donc, la première capsule qui a été lancée, c'était la capsule de Julie Garneau. Votre patron sera-t-il un robot? Donc, on a fait un lancement au foyer. C'était vraiment le fun. Il y avait plusieurs personnes. On l'a également lancé sur les réseaux sociaux et sur notre page YouTube de la chaire publique. Allez voir ça si vous n'avez pas eu la chance.
Puis, il y a aussi une autre capsule qui est sortie un peu plus tard dans l'année. On vous en parle un peu plus tard. Il y a eu le Forum des associations aussi qui est passé dans le mois de novembre qui parlait de la révision du règlement ordinaire et de la mission du Centre d'aide des étudiants. Ça, c'est quand même un autre gros morceau parce que l'Allier avait des recommandations à faire sur justement la mission et le travail que le Centre d'aide fait. Puis ça, c'est toujours côté de la vice-présidente aux affaires internes.
Dans le fond, c'est ça. C'était vraiment intéressant. On a eu plusieurs associations. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore un forum des associations. Donc, il y a plusieurs associations là, qui sont venues écouter la mission du Centre d'aide. Ça a permis de démystifier plusieurs mythes qu'on avait. Et on a vu là, que le Centre d'aide aux étudiants s'est réorienté là, vers quatre principaux volets. Donc, ça a été vraiment pertinent. Ça a offert des outils là, supplémentaires également aux associations étudiantes. Et la révision du règlement disciplinaire, Lydia peut en parler peut-être un peu plus longuement.
Oui, bien, ça a été un dossier, je pense, qui est un bon exemple de collaboration transversale entre plusieurs personnes dans l'équipe de l'Allier, mais également avec les étudiants et les étudiantes, parce qu'on a discuté avec eux, en fait, à la suite d'une révision assez exhaustive directive du règlement des études. On a discuté avec eux des différentes problématiques qu'on entrevoyait, puis qu'est-ce que eux suggéraient en fait pour que le règlement des études soit plus accessible. Donc, ça a amené à la remise d'un rapport avec 24 recommandations aux instances officielles de l'université en charge de la révision. Donc, des recommandations qui touchent à la fois l'accessibilité du règlement des études, sa présentation, l'arrimage du règlement des études avec les autres politiques de l'Université Laval, parce qu'il y a des politiques qui apparaissent un peu à chaque année puis qui ne sont pas nécessairement arrimées avec le règlement des études, ce qui reste problématique. Des recommandations également en lien avec le cheminement des étudiants et des étudiantes, puis finalement, par rapport au processus de révision du règlement des études lui-même. Donc, ça a été très inspirant, en fait, de voir qu'est-ce que les étudiants et les étudiantes avaient à dire par rapport à cet outil-là qui vient influencer leur expérience académique à toutes les semaines.
Puis aussi, le mois de novembre, il y avait le spectacle d'humour de Maud Landry. Maud Landry est venue faire un rodage pour les étudiants des cycles supérieurs, mais aussi pour le grand public. C'est intéressant de voir les gens qui viennent assister à un rodage. C'est pas souvent qu'on peut assister à un rodage d'un show d'humour. Toujours une expérience qui est à refaire. Ça donne la possibilité aussi aux étudiants, parce que c'était vers la mi-session. Donc, c'est toujours intéressant pour les étudiants de un peu sortir de leur livre, d'aller voir un spectacle d'humour pour justement décompresser un peu de la mi-session. Puis, il y avait aussi un événement super important à laquelle l'Allier a participé, c'est la Guignolée. L'Allier, comme à chaque année, participe à la Guignolée pour aider les gens qui sont dans le besoin, qui sont aussi des étudiants qui peuvent être en situation de précarité financière. Puis, l'équipe de l'Allier a participé à cette Guignolée-là. Donc, on est rendu à décembre. Décembre, c'est le mois où on a eu le mémoire sur l'employabilité des étudiants au doctorat. Insertion professionnelle des doctorants et doctorantes, comme on l'appelle à l'Allier. Il y a un autre gros morceau de dossier qui est très important. On a fait des recommandations pour l'employabilité à plusieurs services de l'Université Laval.
Merci Marie pour soulever cet enjeu-là. C'est effectivement l'insertion professionnelle des étudiants de cycle supérieur est une préoccupation de l'Allier, puis telle qu'elle est documentée dans le mémoire également, c'est un enjeu important. Puis parmi les recommandations de l'Allier, justement, c'est qu'on puisse, que l'Université de Laval puisse favoriser les possibilités de carrière des titulaires de doctorat, multiplier ces possibilités-là. On voudrait également que l'Université de Laval documente un peu mieux les parcours d'insertion à l'emploi des doctorants, de manière à ce que ça puisse répondre à leur réalité. Mais on demande également que l'Université mette un règlement pour pouvoir évaluer à chaque année, en fait, le taux d'insertion de ces doctorants-là. Puis c'était aussi une demande au SPLA là, pour la révision de certains programmes d'orientation qui ne coïncident pas toujours avec le parcours de doctorat. Donc, entre plusieurs recommandations, c'était aussi des recommandations pour le gouvernement provincial et fédéral pour qu'il y ait des mesures qui puissent encourager le recrutement de doctorants sur le marché de l'emploi.
Puis, le mois de novembre, on a aussi envoyé à nos 12 000 membres un sondage annuel pour voir un peu leurs préoccupations et les enjeux qu'ils trouvaient importants. Ça, c'est un travail qui était extrêmement important pour l'association parce que ça nous permet d'un peu faire le bilan de ce qui a été fait au niveau des activités, au niveau de la SEC aussi. D'ailleurs, si vous avez des commentaires à faire pour la SEC, vous pouvez écrire à finance@commercialallier.ulaval.ca si jamais vous avez des suggestions pour la couverture de vos assurances. L'Allier travaille actuellement à la modification et à la bonification du régime. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires concernant votre régime, c'est le temps de les faire. On est en modification de ce régime-là. Puis, on a eu des bons résultats pour le sondage annuel, une bonne participation aussi.
Oui, donc on a eu plus de 600 réponses, là. Donc, c'est vraiment impressionnant sur 12 000 membres. Entre autres, on a fait tirer des écouteurs Beats. Donc, encore bravo à la personne. T'es un peu chanceuse de les avoir gagnés. non, mais sinon, sans blague, le sondage annuel, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne un bel aperçu de c'est quoi les services les plus utilisés par les membres, les services les plus connus. Donc, entre autres, les assurances, le Café Fou, l'agenda et les événements parallèles et le soutien financier. Mais également, les enjeux les plus importants pour les membres. Donc, évidemment, la santé psychologique, on a, nos membres nous l'ont dit, les rapports de l'Union étudiante du Québec nous l'ont dit. Le développement durable et l'environnement également, l'encadrement des étudiants, le financement de la recherche et l'accessibilité au transport en commun. Là, c'est vraiment les 5 enjeux les plus importants pour les membres de l'Allier. Donc, évidemment que nos actions ont été faites en ce sens. Également, on a eu la chance de sonder les étudiants par rapport à leurs besoins en infrastructure, donc leurs besoins en locaux avec grâce au sondage annuel. Donc, on voyait là, que c'est vraiment pas tout le monde qui a accès à des bureaux pour sa rédaction, où souvent les bureaux sont partagés en plusieurs étudiants. Donc, ça peut vraiment entraîner des gros problèmes logistiques. Donc, c'est ça, ça va être de continuer le travail en ce sens.
Puis, le mois de décembre, ça a été aussi l'occasion pour l'Allier de faire un autre karaoké, un autre beau succès de l'Allier. Lorsqu'on fait des événements comme ça, c'est toujours intéressant de voir que les membres sont au rendez-vous puis participent en grand nombre. C'est aussi une occasion pour les gens de l'Allier de décompresser un peu. Puis c'est arrivé aussi en même temps que la commémoration pour Polytechnique, quand même un événement important au niveau des cycles supérieurs. Puis l'Allier a participé à la commémoration avec la communauté étudiante en ce 6 décembre-là. Il y a aussi eu un party de Noël, le traditionnel party de Noël qu'on fait pour nos membres. Donc on a eu une belle préparation encore une fois. Ça donnait l'occasion aux exécutants et aux employés de rencontrer les membres. De célébrer Noël et les fêtes avec eux.
La bûche de Noël était très bonne, en tout cas.
Oui, effectivement. Toujours au mois de décembre, comme de quoi les mois se suivent et se ressemblent au niveau des dossiers, il y a eu le règlement d'hier qui a été modifié à cette période-là aussi. Un autre gros dossier pour les droits étudiants, quand même. Beaucoup de révisions de documents qui ont un impact sur les études des étudiants, sur leurs préoccupations?
Oui, bien, quand on est étudiant ou étudiante, je pense qu'on a tous pas vraiment le réflexe d'aller lire les réglementations de l'Université Laval. C'est un des rôles, en fait, de la vice-présidence aux droits étudiants, de voir à ce que ces règlements-là soient appliqués, puis appliqués dans le respect des droits des étudiants. Donc, des politiques, j'en ai lu beaucoup. c'est ça. Le règlement disciplinaire, il est révisé à chaque année. Il y a eu une grosse réforme qui a été faite il y a 2 ans de ça. Donc, déjà, il y a plusieurs avancées qui ont été gagnées pour les étudiants, mais il reste toujours des petits anicroches à corriger, des choses à améliorer. Donc, comme on ne peut pas être contre la vertu, ben on continue de l'exiger pour vous.
Salut, ici Maxime, animateur de l'émission Bonheur et vice-versa, un talk show de divertissement et d'information. Bonheur et vice-versa, c'est maintenant 1h30 de plaisir, tous les mercredis, de 10h30 à midi. Seule émission au Québec ayant comme thématique l'orientation et le bien-être, elle se distingue par son approche humaine, son ton authentique et son équipe composée de professionnels du milieu.
HIS 94.3, le mercredi 10h30, c'est Bonheur et vice-versa, fier partenaire de ton bien-être.
question de savoir l'émission des cycles supérieurs, Marie-Ève Duchesne à l'animation avec le comité exécutif de l'Allier qui vous propose un bilan. Vous venez d'entendre la pièce La fin par Misk.
Au mois de janvier, il y a eu la nouvelle mouture du forum pour une première fois qu'on a parlé de la révision des statuts et du plagiat. C'est quand même un gros morceau pour ce qui est des droits étudiants et des de Charlotte des vice-présidentes aux affaires internes. Ça nous a permis d'un peu vulgariser qu'est-ce que c'est ces changements-là puis qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie des étudiants. Mais aussi, le mois de janvier, ça a été le mois où l'université a annoncé qu'elle faisait des changements au niveau de sa politique de développement durable. Puis l'Allier a écrit une lettre qui critiquait la transparence en matière de ça.
Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est l'université n'a pas fait vraiment une modification de sa politique, a plus annoncé annoncé qu'elle allait être carboneutre, puis qu'elle allait diminuer ses réductions sans nous avoir consulté, alors qu'il y avait justement un comité où siège la vice-présidente d'affaires internes qui s'occupait de ça, qui s'était réuni seulement deux fois au cours des deux dernières années. Donc, on a à ce moment-là été un peu déçus du manque de transparence de l'université quant à leur stratégie en développement durable, du manque de consultation de la communauté étudiante dans cet enjeu-là, alors que, comme on en parlait déjà l'automne dernier avec la grève pour le climat, le développement durable est définitivement un enjeu étudiant maintenant qui est central dans les discussions entre les étudiants. On parle d'accès aux études, mais on parle maintenant nécessairement toujours d'environnement. Donc, on était juste déçus que l'université n'essaye pas d'intégrer les étudiants dans leur communication, dans leur stratégie. Donc, c'est ce qu'on a dénoncé. En tout cas, on espère que l'université va faire preuve de changement là-dessus, mais déjà, il semble avoir une verte université pour intégrer plus d'étudiants dans leur stratégie de consultation, mais ça sera à surveiller.
Effectivement. Puis, il y a aussi eu la deuxième capsule de Néo par Mathieu Champagne, qui se posait la question si nos ingénieurs civils sont incompétents. C'est une autre belle réussite de Néo, vraiment d'excellents résultats pour le visionnement. C'est une des capsules qui a le mieux fonctionné pour Néo. Puis, ça montre que le format gagne à être connu. Donc, c'est sûr et certain que les prochains mois, vous allez le reconnaître. Notre hiver a été quand même assez chargé au niveau des revendications, au niveau de ce qu'on a fait comme travail. Gros morceau, en février, il y a eu la modification au règlement généraux. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat, ces changements au règlement généraux pour l'ALI?
Oui, ben c'est sûr que ce serait le fun de Richel puisse être là pour en parler. Puis ça, ça a été un des gros dossiers de Richel aussi, puis de l'exécutif en général, là, mais ça a été ces modifications-là. On en parlait déjà, les impacts que ça a eu pour le forum avec la nouvelle mouture. Mais de façon générale, les règlements s'attaquaient à deux dossiers, justement, le forum des associations qui est devenu le forum et les élections du comité exécutif. Puis ça a donné des modifications vraiment majeures à la structure de l'Allier qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Grosso modo, pour ce qui est du forum, comme l'expliquait Charlotte, ça devient un forum de membres individuels. Puis pour ce qui est des élections, en fait, on passe des élections. Les élections générales annuelles ne relèvent plus du conseil d'administration, mais relèvent des membres directement. Donc, on élit le comité exécutif par suffrage universel. Donc, essentiellement, ces règlements ont pour effet de donner ce nouveau droit-là aux membres pour ce qui est des élections générales annuelles. Donc, ça a été des modifications qui ont pris beaucoup de temps. On a fait aussi des consultations l'automne dernier à ce sujet-là. Et le CA a entériné une modification lors du CA du mois de novembre. Et finalement, le CA a adopté une modification le 7 novembre, puis le tout a été entériné par la GIE en février.
Puis, il y a eu un événement qui a eu lieu sous une nouvelle formule. C'est le rendez-vous des cycles supérieurs, une initiative de plusieurs acteurs des cycles supérieurs, entre autres le Centre d'aide aux étudiants, le service de placement de l'Université Laval, puis aussi la Faculté des étudiants et postdoctorales. Donc, ça a été... Puis l'ALI a parlé, bien entendu, à cet événement-là. On a été présents pour parler des revendications de l'ALI, mais aussi de ce qui se passe avec les supérieurs. Ça a permis aux étudiants de comprendre un peu quel métier ils peuvent faire dans au cycle supérieur. Par exemple, il y a eu une conférence sur le métier de chercheur,
sur le métier d'enseignement au collégial et à l'université. C'est vraiment un bel événement à reproduire dans les prochaines années. Puis aussi, mois de février, un autre moment charnière à l'Université Laval, c'est la grève pour l'environnement, la semaine de l'avenir. Ça a été des résultats historiques pour l'Allier, pour la mobilisation des étudiants pour cet enjeu-là.
Oui, en effet, dans le fond, c'est ça, comme Jason l'a expliqué là, un peu plus tôt, pour entrer en grève, c'est quand même un long processus. Donc, on doit soumettre une question à l'Assemblée générale qui va déterminer si oui ou non on fait une consultation électronique pour l'ensemble des membres pour qu'on puisse rentrer en grève de une semaine. Et contre toute attente, le pour l'a emporté. Donc, si ce n'était pas de la COVID-19, on serait en grève. On aurait été en grève pendant une semaine. Donc, c'est vraiment impressionnant les résultats à ce niveau-là.
Et aussi impressionnant parce que c'est la première fois qu'on avait un aussi gros taux de participation pour une consultation en ligne à ce sujet-là. Effectivement, n'eût été que l'Allier aurait été en grève pendant une semaine. Ça aurait été quand même assez impressionnant de notre part. Et aussi, pour le mois de février, ça a été le lancement d'une campagne qu'on va continuer à l'automne, qu'on va continuer dans les prochains mois, qui s'appelle « Plus pour ta tête ». C'est une campagne qui demande un plan d'action de l'Université Laval en matière de santé psychologique. On l'a vu avec les résultats de l'Union étudiante du Québec, de leur enquête. On a vu par notre sondage annuel, c'est un dossier qui est extrêmement important pour les étudiants au cycle supérieur. C'est du travail qui est de longue haleine.
Oui, puis il faut rappeler qu'en fait, en février, on a reçu aussi le résultat de l'enquête spécifique de l'UVEC pour l'Allier, parce que pour que tout le monde comprenne bien, au fond, il y avait comme deux résultats qui étaient donnés aux associations étudiantes. Il y avait le résultat général de tous les étudiants du Québec, puis des résultats spécifiques par association. Donc, on a reçu notre rapport spécifique avec nos résultats propres à nos membres, puis qui venait confirmer certaines tendances du rapport général. Donc, c'est là qu'on a ensuite, comme tu dis, lancé la campagne « Plus pour ta tête » qui vise à augmenter les services, augmenter le cadre général, améliorer plutôt le cadre général dans lequel étudient nos membres afin de s'assurer qu'ils puissent maintenir une bonne santé psychologique. Puis tout ça, ultimement, doit converger vers la mise en place d'un plan d'action institutionnel à l'Université Laval en matière de santé psychologique, dans lequel notamment il serait question du plan d'encadrement obligatoire. Puis, comme le disait Fanny plus tôt, ben, pour l'instant, cet enjeu-là n'est pas encore pleinement abouti, là. Oui, dans le règlement des études, ça a été changé. Il est maintenant question d'un plan d'encadrement obligatoire, mais la proposition, le modèle qui est proposé actuellement par l'université contient une pause dérogatoire qui en gros fait en sorte que le plan n'est pas véritablement obligatoire. C'est un peu technique, mais c'est un problème quand même majeur qui vient affecter la vie étudiante de plusieurs de nos membres.
Effectivement. Puis quand on pense au mois de mars, le mois de mars, vers à peu près le 13 mars, il y a eu un événement qu'on appelle communément la COVID. Donc pour ceux et celles qui vivent en dessous d'une roche ou Dr Arruda, tous et celles qui vivent en dessous d'une roche, le COVID a vraiment bouleversé plusieurs activités, non seulement celles de l'Allier, mais à travers le Québec et le Canada et le monde entier. Entre autres, on avait une activité le 20 mars qui devait avoir lieu, qui s'appelle la Journée de la recherche, une initiative de l'Allier avec plusieurs partenaires. On a réussi un tour de force en transformant cette journée-là en une journée de la recherche.
Oui, Marie, effectivement, la journée des métiers de la recherche, c'était un bel événement. Et cette année, c'était le premier colloque étudiant que l'Allier organisait. Et on a fédéré pas mal de partenariats, donc les fonds de recherche du Québec, cette année, qui étaient là pour cette journée-là, à travers M. Rémi Quirion, qui a accordé d'ailleurs à l'Allier une entrevue cette année. C'est vraiment apprécié. Puis il y a eu les facultés, il y a eu la bibliothèque qui ont commandité l'événement. Et on a réussi à rejoindre 12 facultés sur... C'est 12 facultés étudiantes, puis on a reçu une vingtaine de soumissions oui. De travaux de recherche de nos étudiants, puis on s'est visé effectivement à valoriser la place du savoir académique dans la société, mais également tous les métiers de chercheurs, effectivement, comme le thème l'indique. Et donc, face à la COVID, cet événement-là a été transformé avec le soutien de la chaire Meillot qui a pu rediffuser cet événement-là sur le site Lali en semaine de la recherche. Et nous espérons que nous allons poursuivre ces initiatives-là pour les années qui arrivent.
Effectivement, on a eu la chance d'avoir des étudiants qui étaient partants à la journée de la recherche en tant que telle, qui ont participé à la semaine de la recherche. Pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu, c'est disponible sur la page Facebook. Si jamais vous avez manqué les conférences, vous pourrez les revoir. Vous allez pouvoir revoir aussi les questions dont il a été question. Tout ce qui est... il y a aussi la participation de la bibliothèque qui a fait une conférence. Puis, toujours sur le plan des actes en ligne, on a transformé les actes de et si on rédigeait en webinaire en ligne. Donc, ça a été un beau travail qui a été fait avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales, la bibliothèque et aussi l'ALI. Parce que c'est important que les étudiants puissent briser l'isolement.
Effectivement, on a eu 3 webinaires qui ont été donnés en ligne, 2 par la bibliothèque et 1 par la FESC, pour pouvoir encadrer les travaux de rédaction des étudiants sur pendant la distanciation. Et on vous invite vraiment à aller écouter. Là, c'est vraiment de très belles conférences pré-rédaction. On avait une sur la publication savante également.
Puis aussi, l'Allier a participé à un projet qui s'appelle SOS Ensemble Québec, qui visait à revitailler revitailler alimentairement les étudiants qui résident aux résidences. On a aussi fait un groupe Facebook pour permettre à ces étudiants-là de se retrouver en logis pendant le COVID, en fait.
Oui, concernant le groupe d'entraide SOS, l'ALI est très fière quand même d'avoir été très proactive dans la gestion de la crise. En ce qui concerne, on a investi quand même dans les fonds d'urgence oui. Les fonds d'urgence du Québec là cette année. On a investi dans les fonds le fonds d'urgence de l'Université de Laval pour soutenir les étudiants en précarité. Oui. Puis l'ALI également a soutenu le projet de SOS Entraide Québec qui visait effectivement à ravitailler hebdomadairement les étudiants en précarité financière aux résidences universitaires. Mm-hmm. Puis la création du groupe Facebook aussi pour apporter un soutien de près à nos étudiants. Et puis c'est un travail qui ne se termine pas, puis on continue d'améliorer l'offre des services puis de défendre les intérêts de nos membres dans ce sens.
Oui, effectivement. Puis un point que Nathaniel Morin, notre vice-président aux affaires financières aurait voulu faire s'il avait été présent, c'est que l'Allier, pendant l'année qui s'est terminée, a donné 84 500 $ en subvention, en bourse aux membres de l'Allier. On a donné, entre autres, 34 500 $ aux associations étudiantes pour leur permettre de faire des activités, pour leur permettre de faire des projets. Puis aussi, l'Allier a augmenté sa bourse de précarité qu'on donne par le biais du comité
bourse subvention, comment dites.
Exactement, communément appelé BSC chez nous. Effectivement, on a participé à la bourse de précarité du bureau d'aide financière de l'Université de Laval. Mais en ce sens, on a augmenté nos bourses de précarité parce que justement, en période de COVID, il y a quand même quelques initiatives gouvernementales, mais les étudiants étrangers ne sont pas admissibles pour l'instant. Donc, on a pu leur permettre d'avoir des bourses de précarité financière un peu plus augmentées à l'Allier. On arrive aussi sur nos pub quiz. On a fait des pub quiz en ligne pour la première fois. Donc, ça aussi, c'est disponible sur la page Facebook. C'était disponible en Facebook Live. On a eu beaucoup de participants. C'était un succès, ma foi, inespéré. Tout le travail qui a été fait par l'attaché aux communications, c'est-à-dire moi, et par notre vice-présidente aux affaires internes, ça a été des beaux moments de participation de la part des étudiants. Mais je dois dire qu'on a réussi à faire des activités en ligne pour vraiment briser l'isolement puis permettre aux étudiants de faire le plus de sociable malgré la distanciation sociale.
Marie-Ève, si je peux me permettre, c'est le karaoké virtuel qui a pris place, encore une fois, à cause de la COVID-19. Donc, c'est vraiment impressionnant comment ça a bien fonctionné contre toute attente. Donc, Tout le monde chantait un peu en duo. C'était vraiment super. Ça dépasserait les attentes.
Puis aussi, mois de mars.
On en a parlé tantôt.
On en a parlé, c'est vrai, excusez. Parce que je venais de voir Jason apparaître. Un autre beau dossier pour les mémoires. Il y a le mémoire sur la place du français qu'on a pu mener à terme pendant ce mandat-là. Un mandat, en fait, un travail qui a été fait par notre chargé d'études. Puis c'est un mémoire qu'on a hâte de présenter aux membres.
Oui, en fait, le mémoire, c'est une première initiative qui vise à encourager également que l'enjeu du français à l'Université de Laval soit documenté. Avec le chargé d'études Mario, qui est responsable de la rédaction du mémoire, ça a été surtout d'aller à la rencontre des étudiants à l'Université de Laval pour voir un peu quelle est la place du français, aussi bien dans le vécu quotidien des étudiants que dans le matériel, surtout de leur perception du matériel de cours qui est mis à leur disposition. Et dans l'enseignement également. Donc, c'est arrivé à plusieurs faits saillants qu'il y a quand même une place importante d'anglais dans les...